Radio Kapi. Oh, Kapi.
À la une de l'actualité ce midi sur Radio Kapi. Ouverture ce vendredi de la session parlementaire de septembre, essentiellement budgétaire. Cependant, les parlementaires, bloqués encore dans leur circonscription électorale faute d'avion, appellent le gouvernement à décanter la situation pour assurer la mobilité de la population congolaise à l'intérieur du pays. Les mauvaises conditions de détention font des dégâts dans différentes prisons centrales de la province du Nord Kivu. C'est le cas de la prison de Kangbaï à Beni, où 17 détenus sont décédés entre le mois d'août et celui de septembre en cours. Comment garder les perroquets saisis avant de les relâcher? Nous en parlons avec notre invité Fidèle Essonga, gardien des perroquets au centre de réhabilitation et relâchement des perroquets à Dingui, dans les territoires de Kailo, province du Maniema. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est aujourd'hui, vendredi 15 septembre 2023, que s'ouvre la session parlementaire de septembre, une session essentiellement budgétaire. Après 3 mois de vacances, les députés et sénateurs reprennent le chemin du Palais du Peuple. L'ouverture de la session de septembre vient d'avoir lieu au Sénat en présence du Premier ministre. En ce moment, au Palais du Peuple, un fort engouement s'observe avec la présence des parlementaires, militants et sympathisants de certains partis politiques de l'Union Sacrée, ainsi que quelques activistes de la société civile. Cependant, les parlementaires bloqués encore à l'intérieur du pays, faute d'avion, invitent le gouvernement à prendre les dispositions conséquentes pour assurer la mobilité de la population congolaise d'une province à l'autre. On écoute le député Jackson Aoussé, bloqué à Ituri, au micro de Michel Kifindangoï.
Nous sommes, moi-même et plusieurs autres collègues, bloqués pratiquement dans les provinces parce qu'il n'y a plus vol. Il y a 2 dernières semaines de la vacance ici, les vols ont été suspendus. Congo Airways cloué, bloqué, les communiqués, les déclarations des responsables en témoignent. CAA qui vole d'une manière dubitative avec plusieurs vols reportés complètement. Ça nous met en difficulté, sincèrement en difficulté. C'est pour cette raison que nous sommes en train de profiter par votre antenne, d'interpeller le gouvernement. Gouverner, c'est aussi prévoir le plus possible. Ce n'est pas normal que toute une république puisse manquer même un seul appareil. Voilà, c'est inacceptable. Ça, nous n'allons pas accepter. Et que cette situation puisse avoir une incidence politique aujourd'hui, que nous, députés, nous ne prenions pas part à notre devoir. C'est inacceptable et ça, nous ne pouvons pas le tolérer. Nous allons interpeller le Premier ministre parce que ça relève de ses compétences. Nous voulons que ça se règle le plus vite possible.
Je le disais tantôt, à Beni au Nord Kivu, 17 détenus de la prison centrale de Kangbaï sont décédés entre août et septembre 2023. Ces chiffres sont contenus dans un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, de la MONUSCO Beni, qui a effectué une descente mercredi dernier. Les mauvaises conditions de détention sont l'une des causes principales de cette situation alarmante, indiquent les rapports. Sadiki Aboubakar nous en dit plus.
Les conditions carcérales à la prison urbaine de Beni se sont gravement détériorées depuis le début de l'année 2023, mais surtout durant ces 3 derniers mois où la prison fait face à un problème d'approvisionnement par le gouvernement, une situation qui est à la base de plusieurs cas de malnutrition et d'autres maladies. Conséquence, 17 détenus sont morts depuis août dans cette maison carcérale, dont 10 pour les 2 premières semaines de septembre. Ces détenus décèdent soit au niveau de l'infirmerie de la prison, soit à l'hôpital général de référence de Beni, où ils sont transférés pour des soins. La même source indique que la majorité de ces détenus morts étaient des prévenus à la disposition des instances judiciaires civiles et militaires de Beni. Ils étaient poursuivis notamment pour vol simple, pêche illicite, association des malfaiteurs, viol, meurtre et participation à un mouvement insurrectionnel. Le maire intérimaire de la ville de Beni, le commissaire supérieur principal, Jacob Nyofondo, dit être au courant de la situation. Il affirme que les démarches de plaidoyer sont en cours pour sauver des vies humaines dans cette maison carcérale. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Toujours au Nord Kivu, sur une période de 8 mois, plus de 80 détenus ont perdu la vie dans 3 prisons centrales du sud de la province. Il s'agit des prisons centrales de Goma, Masisi et Walikale. C'est ce qui ressort du monitoring fait par 5 organisations de défense des droits de l'homme dans ces maisons carcérales. Rapport présenté hier devant la presse à Goma. La description de la vie dans ces maisons carcérales fait ressortir une promiscuité aiguë, l'insécurité alimentaire, les maladies chroniques, la torture horizontale, des bâtiments en délabrement qui exposent les détenus aux intempéries, le tout chapeauté par la lourdeur administrative. Plus de détails avec Rosalie Zawadi.
Au 7 septembre, date de la clôture de cette enquête, la prison centrale de Goma comptait 3658 détenus pour une capacité de 300 personnes. Ici, comme dans les deux autres prisons concernées, les détenus mangent difficilement et ils doivent parfois recourir aux solutions extrêmes pour survivre, explique Victor Batundi, l'un des activistes des droits de l'homme qui a travaillé sur ces rapports.
Il est arrivé un moment même pour Masisi, les détenus broutaient les herbes comme des chefs, par manque de la ration alimentaire. Les installations sanitaires n'existent presque pas. Mais ce qui nous a piqué davantage, c'est le nombre de décès. De janvier jusqu'au 7 septembre, nous avons dénombré 24 dans la prison de Goma, 19 dans la prison de Walikale et 43 dans la prison de Massis. Donc c'est inacceptable que les gens soient arrêtés pour mourir en prison.
Ces organisations recommandent qu'il soit instauré au niveau des prisons des systèmes mixtes de traitement rapide des dossiers, mais aussi de mettre fin aux arrestations arbitraires. Elles disent avoir déjà partagé leurs notes de plaidoyer aux autorités et elles promettent de faire un suivi de proximité pour s'assurer que les autorités s'impliquent pour améliorer les conditions carcérales, non seulement au Nord Kivu, mais dans tous les pays. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, l'ONG Médecins Sans Frontières s'est dit préoccupé par le nombre de plus en plus élevé des cas de violences sexuelles dans les sites des déplacés autour de Goma. C'est dans les territoires de Nyiragongo et dans l'ouest de la ville de Goma. Selon son rapport rendu public hier jeudi, l'ONG humanitaire parle d'au moins 1500 femmes violées durant le seul mois de juillet dernier dans 6 sites où interviennent ses équipes. Le MSF appelle à une mobilisation contre cette situation. Bernard Denyangi.
Chaque jour, c'est au moins 70 femmes victimes d'agressions sexuelles qui se présentent dans les structures mobiles mises en place par MSF dans les sites de Lushagala, Bulengo, Elohim, Shabindo, Rusayo et Kanyaruchinya, indique ce rapport. Le chef de mission MSF à Goma, qui parle d'une situation inacceptable, appelle à une mobilisation pour la protection surtout des femmes déplacées. Rasman Kabore.
Les violences sexuelles deviennent compliquées avec beaucoup plus d'agressivité. Elles sont dues en dehors des camps quand elles se rendent en brousse pour chercher du bois et aussi parce qu'il n'y a pas de protection dans ces camps. Les autres organisations humanitaires ainsi que le gouvernement doivent doubler d'efforts afin d'améliorer durablement les conditions de ces personnes qui présentement vivent dans des situations inacceptables.
Rappelons que depuis plusieurs mois, les déplacés autour de Goma reçoivent de moins en moins de l'assistance en vivre et non vivre. Ils sont du coup obligés de chercher le moyen de survie dans des conditions très risquées, ce qui a pour conséquence l'exacerbation de leur vulnérabilité. Les sources humanitaires dans le site de Kanyaruchinya indique que la préparation de la distribution des 180 tonnes de vivres et de non-vivres déjà acheminées à Goma dans le cadre du deuxième pont aérien de l'Union européenne est toujours en cours. Goma, Bernard Denyangi, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, les acteurs de la société civile de Mambasa saluent le déploiement prochain des forces de l'armée ougandaise dans cette contrée pour venir combattre les rebelles ADF aux côtés des soldats des FARDC. Cette annonce a été faite en début de semaine par les porte-parole de cette coalition, affirment les animateurs de cette société civile. Ils plaident cependant pour une bonne coordination des opérations dans la zone pour que ces forces négatives ne pénètrent pas la réserve de faune à Okapi, qui est une réserve inscrite sur la liste des patrimoines mondiaux de l'UNESCO. C'est ce que nous dit à Bounia Jean-Claude Lokidile.
Dans un entretien ce vendredi avec Radio Kapi, la coordinatrice de la société civile Force Vive du territoire de Mambasa, Marie-Noël Anotane, affirme que la population de cette région, victime des atrocités des rebelles ADF, attend beaucoup de cette force conjointe FARDC-UPDF. Elle souhaite notamment que les opérations qui seront menées par ces deux armées permettent de mettre fin à l'activisme de ces rebelles qui ont commis depuis 2 ans de nombreuses exactions, principalement dans les chefferies de Babila Bakwanza et Babila Babombi, qui sont leurs bastions. Il s'agit notamment de l'axe Mambasa Luna, Mambasa Komanda et Mambasa Biakato. Les populations de cette région ont le même espoir, celui de voir ces offensives communes aboutir à la neutralisation de ces rebelles afin qu'elles regagnent leur village. Pour sa part, Laurent Keya, le coordinateur de l'ONG CODEPEF, Convention pour le développement des peuples forestiers, demande aux responsables militaires de ces deux armées de se mettre réellement à l'œuvre et prendre en compte les alertes données par les populations qui détiennent parfois d'informations fiables sur le mouvement de ces rebelles. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile Radio Okapi.
Merci de nous recevoir à Sabiezo et à Lusangi dans la province du Maniema où nous nous rendons à présent pour parler des conséquences de la grève des personnels de santé non médecins. La campagne de vaccination et de suivi contre la rougeole prévue hier jeudi n'a plus eu lieu. Cette activité est reportée à une date ultérieure jusqu'à la levée de ces mouvements de grève. On écoute le ministre provincial de la santé au Maniema, Dr Kibungi Mutanga Junior, qui explique au micro de Florence Kizalunga.
Il était prévu que la province du Maniema puisse lancer aujourd'hui 14 septembre 2023 la campagne de suivi contre la rougeole. Ce lancement n'a pas eu lieu du fait que le pourparler avec le banc syndical de personnel non médecin en grève qui nous avait rassuré que la grève sera peut-être levée avant les 14, n'a pas eu lieu, raison pour laquelle nous repoussons cette date à une période qui sera communiquée prochainement. Justement, des activités de masse comme campagne de vaccination, un grand nombre ce sont des personnels non médecins, raison pour laquelle comme ils sont en grève, cela a handicapé le lancement de la campagne. Nous avons des informations selon lesquelles il y a des avancées par rapport aux revendications des personnels non médecins au niveau national. Nous espérons dans 48 heures, il y aura une solution qui sera trouvée pour que les enfants soient vaccinés dans l'ensemble de la province.
Par ailleurs, dans les territoires de Beni, au Nord Kivu, le bloc de la maternité du centre de santé de référence CK20 de Lume, incendié il y a une année déjà par les rebelles des ADF, sera réhabilité par la Caritas Butembo Beni grâce au financement du Fonds humanitaire en République démocratique du Congo, FHRDC. Les travaux de réhabilitation ont été lancés mercredi. Selon les responsables de ces centres de santé, cette réhabilitation est un soulagement pour les femmes enceintes qui accouchaient à même le sol. André Kitenge.
Les travaux de réhabilitation de cette structure sanitaire de la zone de santé de Mutuanga ont été lancés mercredi en présence de plusieurs autorités locales et sanitaires. Selon le docteur Carlos Mumbere, médecin traitant au centre de santé de référence CK20 de Lume, cette réhabilitation va soulager les femmes enceintes.
Immense notre joie de voir nos partenaires Caritas venir réhabiliter pour nous la maternité. Nous avons plusieurs difficultés, notamment les femmes enceintes n'avaient où se mettre pendant le travail d'accouchement et après l'accouchement ou soit après une césarienne, ils pouvaient être tous par terre et ça faisait aussi exposer les nouveau-nés à faire aussi des infections néonatales.
Une des femmes enceintes sur place pense que cette réhabilitation vient mettre fin au calvaire qu'elles enduraient en effectuant des longues distances pour aller accoucher ailleurs.
Notre remerciement, c'est pour notre maternité. Nous avions énormément peur à nous rendre jusqu'à Mutuanga à cause de la situation sécuritaire, mais cette maternité vient résoudre ce problème.
Signalons que ce bloc de la maternité est réhabilité par la Caritas Butembo Beni grâce au financement du Fonds humanitaire en République démocratique du Congo par le truchement du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Et à Kananga, au Kasaï Central, le directeur général du Beseko a inspecté hier les travaux de construction de la nouvelle morgue de Kananga. Jean Mabi était accompagné du gouverneur des provinces, John Kabeya. Cet ouvrage, dont les travaux sont exécutés par l'entreprise Safrimex, rentre dans le cadre du programme présidentiel d'urgence des constructions et réhabilitation des infrastructures sociales des bases dans la ville de Kananga. François Kadima nous en parle.
L'hôpital général de référence de Kananga disposait d'une petite morgue de 9 frigos mortuaires construite depuis le temps colonial. La nouvelle en construction est une réponse aux désidérateurs de la population du Kasaï Central recueillis au mois de décembre 2021 lors de la tournée du président de la République. Cette morgue qui permettra de bien conserver les corps comprend une salle d'embaumement, une cinquantaine de frigos et un magasin funèbre. Le DG de Beseko revient sur d'autres particularités de cette infrastructure.
La morgue va fonctionner avec le soleil. Il y aura à peu près 280 panneaux pour faire tourner cette morgue-là, parce que la régie des eaux fournit l'eau régulièrement. Mais nous avons prévu aussi le forage.
Ces travaux, déjà en phase de finissage, ont démarré au mois de février dernier, soulignant que la construction de la morgue permettra de répondre aux besoins en matière de soins funéraires. Le gouverneur de province est dit satisfait de l'avancement de cette infrastructure en phase de finissage.
Il y a le carrelage, il y a des petites maçonneries, il y a la plomberie, il y a l'électricité. Et avec l'allure dont Safrimex s'est engagé à exécuter les travaux, dans peu de jours, nous allons réceptionner l'ouvrage.
Signalons que le directeur général du Beseko, accompagné du gouverneur de province, a également visité d'autres chantiers sur la ville, dont celui de l'aérogare de Kananga. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Et puis, au sud Kivu, la direction régionale de la Société Nationale d'Électricité SNEL déplore la présence des déchets plastiques et immondices dans le barrage situé sur la rivière Ruzizi. Une situation qui oblige la SNEL d'arrêter le fonctionnement de ses machines chaque jour afin de dégager ces déchets plastiques. Conséquence, c'est le retour du phénomène de délestage alors que la desserte était déjà devenue stable dans les villes de Bukavu et Goma. Le directeur de la SNEL sud Kivu appelle la population de Bukavu à mieux gérer ses immondices et autres déchets au lieu de les décharger dans les eaux du lac Kivu. Jovik Moulemangabo, dans cet extrait choisi par Emmanuel Elamejoakabidi.
Ici chez nous, à Bukavu, vous êtes témoin. Vous avez vu comment nous sommes en train d'améliorer la desserte dans la ville de Bukavu. Avant, il y avait beaucoup de délestage, mais le DG nous a doté de matériel de haute technologie. Si bien qu'aujourd'hui, le délestage dans la ville de Bukavu, surtout dans la commune d'Ibanda, on l'a réduit à zéro. Donc, il n'y a plus de délestage à Ibanda. Maintenant que vous êtes avec moi ici à la centrale, vous avez vu les déchets.
Même si nous améliorons en amont, sachez qu'il y a des problèmes, eh bien, les efforts. C'est pourquoi je vous demande de passer le message auprès de la population qu'ils arrêtent de jeter les immondices dans les caniveaux. Quand ils jettent les immondices dans les caniveaux, tous ces immondices viennent échouer ici au barrage. Et quand ça vient ici, vous avez vu, maintenant là, on est en train de faire le dégrillage. C'est-à-dire, quand on dégrille, on est obligé d'arrêter sur les quatre groupes, deux ou trois. Et là, c'est le délestage qui revient encore dans la ville. Alors que c'est ce que nous sommes en train de combattre. Vraiment, je vous charge d'aller expliquer à la population qu'ils voient comment ils peuvent commencer à retenir leur déchets et aller les jeter dans les dépotoirs, pas dans les lacs, pas dans les caniveaux, parce que tout vient échouer ici. Et en venant ici, on est obligé d'arrêter les machines.
Actualité internationale.
Le Maroc devrait demander l'aide de l'Organisation des Nations Unies, ONU, aujourd'hui ou demain pour assister les rescapés du puissant séisme ayant frappé le pays dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023, indique ce 15 septembre le patron des opérations d'urgence de l'ONU. Nous nous attendons et espérons, d'après nos discussions avec les autorités marocaines, que la demande d'assistance soit envoyée aujourd'hui ou demain, je vais dire très bientôt, déclare Martin Griffiths lors d'un point de presse à Genève. Ce tremblement de terre survenu dans la province d'Al Aouz, au sud de Marrakech, a fait 2946 morts et 5674 blessés, selon le dernier bilan officiel publié.
L'invité.
C'est Fidel Essonga, gardien des perroquets au centre de réhabilitation et relâchement des perroquets à Dingi, village situé à 55 km de Kindu, dans les territoires de Kailo. Nous sommes dans la province du Maniema. Dans cet entretien accordé à Florence Kizalunga, Fidel Essonga nous explique comment est-ce qu'ils font pour garder les perroquets saisis avant de les relâcher. Suivez.
Monsieur Fidel Essonga, bonjour.
Bonjour, madame Florence.
Vous êtes en train de garder les perroquets ici. Dites-nous comment est-ce que vous faites pour les garder.
Oui, en fait, si les perroquets arrivent à provenance de Kindu, je reçois les perroquets, soit 20, 30, 40, et je les mets dans les volières et nous les protégeons en donnant les nourritures, les produits pharmaceutiques, ainsi de suite.
Et actuellement, vous avez combien de catégories de perroquets que vous gardez ici?
Oui, actuellement, c'est deux sortes de perroquets. Il y a des perroquets verts et il y a des perroquets gris.
Quelle différence y a-t-il entre les perroquets gris et les perroquets verts?
Les perroquets verts ont des couleurs de vert, noir-vert, et les perroquets gris ont des couleurs de blanc et leurs queues sont en rouge. Et les verts ne parlent pas, mais les gris parlent toujours.
Et en ce qui concerne leur alimentation, ils mangent les mêmes choses?
Oui, ils mangent les mêmes choses.
Par exemple quoi?
Par exemple le maïs, l'arachide, les patates douces, canne à sucre, ainsi que des noix de palme.
Et ils mangent ça facilement. Ils ne boivent pas de l'eau?
Oui, ainsi que de l'eau. Et parfois dans l'eau, on met les médicaments.
Dans votre volière ici, vous avez combien de perroquets?
Oui, volière 2, nous avons 38 perroquets. Et volière 1, nous avons 40 perroquets verts.
Bon, après combien de temps vous gardez ces perroquets dans ces volières pour les relâcher?
Bon, ça peut être 3 mois, 4 mois. Si on voit que c'est apte à voler, on libère. On relâche.
Maintenant, quand vous relâchez, toi, comme leur surveillant, comment est-ce que tu fais pour leur suivi? Bon. Tu les observes comment dans la nature?
Oui, madame. Si on relâche, on commence à faire les suivis. Si ça disparaît ou bien ça existe toujours aux environs, c'est par là que nous voyons que notre travail a réussi.
Comment est-ce que vous les différenciez, vous les distinguez dans la nature? Est-ce que vous mettez des signes, des bracelets ou comment?
Bon, madame le journaliste, pas maintenant, mais nous avons ce projet de les mettre les traces, des signes pour que nous soyons bien que ça c'est pour le nôtre et ça ce n'est pas le nôtre.
Mais quand on vient avec le perroquet saisi, ici, il y a d'autres chimères ou comment?
Oui, il y a d'autres chimères sous de mauvaises conditions de transport. Vous savez, ici, quitter Kindu pour Dingi, mauvaises conditions de transport, ça va faire les perroquets mères.
Et si les perroquets meurent comme ça, qu'est-ce que vous faites avec ces perroquets?
Oui, on enterre et puis on fait le PV et puis on enterre seulement.
Mais il ne vous arrive pas de manger ça?
Non, non, c'est interdit. La loi nous interdit ça.
Et les produits vétérinaires de ces perroquets, où est-ce que vous trouvez ça?
Oui, parfois nous achetons à Kindu, dans les pharmacies vétérinaires.
Vous avez un financement ou bien c'est ICCN qui fait ça?
Bon, c'est ICCN, mais en collaboration de WPT qui nous appuie. W, c'est World Perro Street.
En tout cas, si je venais demander légalement un perroquet, est-ce qu'on peut autoriser des données?
Non, non, on n'autorise pas des données et on n'autorise pas de rester avec ça à la maison.
Quel conseil, vous qui gardez les perroquets ici au centre de récupération et de réhabilitation des perroquets, que vous avez à toute la communauté?
Oui, je peux donner le conseil aux autorités de faire les sensibilisations pour que les hommes qui font le travail de trafic des perroquets puissent laisser et les remettre à l'ICCN ou au service de l'environnement.
Vous êtes en train de garder ces perroquets ici dans les centres de récupération et de réhabilitation. Le trafic de perroquets, c'est une pratique qui est à la une dans la province du Maniema. Vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous demandez à la communauté?
Oui, nous demandons à la communauté de laisser la pratique des braconnages, la pratique des trafics des perroquets. Nous demandons aussi au gouvernement provincial de mettre fin à cette manœuvre.
Qu'est-ce que vous, ICCN, vous allez faire pour arrêter cette pratique?
Oui, on est en train de procéder à la sensibilisation et enfin, on va évaluer notre sensibilisation.
Quelles sont les difficultés qui sont ici?
Ici, il y a les individus qui viennent ici pendant la nuit et qui cherchent à voler notre espèce. Nous demandons aux autorités et les partenaires de l'ICCN de nous venir en aide pour que nous ayons les infrastructures en dur, pour que nous ayons des volières de bonne qualité, pour garder ces espèces totalement protégées, qui sont en voie de disparition.
Monsieur Fidèle Songa, merci.
Merci madame, c'est moi qui vous remercie.
Notre invité répondait aux questions de Florence Kizalunga. Ainsi s'achève ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Pele Kipela Mondo. La mise en onde était assurée par Jean-Claude Nsiala Mwana Makengo Nswalu, qui célèbre d'ailleurs son anniversaire de naissance aujourd'hui. Présentation de Grâce Amzati Masanzi. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.